Religion du monde, Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Après plus de 50 années de règne sans partage en Syrie, le régime de Bachar al-Assad s'est effondré le 8 décembre dernier, suscitant beaucoup d'espoir parmi les habitants et les plus de 6 millions de réfugiés qui avaient fui la guerre depuis 13 ans et plus de 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays depuis 2011. Mais de nouvelles violences ont assombri les perspectives de paix dans un pays divisé, avec une mosaïque confessionnelle et ethnique complexe, instrumentalisée par certains groupes. Ces chants « Nous sommes un » étaient scandés pendant la révolution syrienne à partir de mars 2011. Une révolte transformée en guerre civile, une répression sans merci par la dictature de Bachar al-Assad, l'émergence de groupes armés dont des djihadistes, un conflit qui en 14 ans a fait plus de 500 000 morts et des milliers de disparus. Dans cette émission, nous nous focaliserons sur la mosaïque confessionnelle qui caractérise la Syrie dans cette région complexe pour tenter de comprendre les enjeux de ce qui se joue aussi pour l'avenir du pays après l'élan suscité par la chute du régime Assad, mais assombri par des massacres contre des Alaouites ces dernières semaines. Pourtant, le nouvel homme fort de la transition syrienne, nommé président par intérim, Ahmed al-Shara, issu du groupe sunnite radical Hayat Tahrir al-Sham, HTS, avait reçu en janvier dernier des délégations de l'intérieur et de l'extérieur du pays en s'efforçant d'envoyer des messages rassurants aux Syriens. Notre correspondant Mohamed Erami avait recueilli début janvier des réactions de Syriens à Damas.
Nous, Syriens, sommes unis et nos confessions ne font qu'une. Peu importe la diversité de nos confessions, nous resterons un seul peuple. Sous la direction du leader Ahmad al-Shara et du conseil dirigeant, nous espérons renforcer notre coopération pour reconstruire la Syrie ensemble.
J'ai le sentiment que le pays se dirige vers une phase de reconstruction, même si ça va prendre du temps. Et ces rencontres prouvent que notre nation sera exempte de toute discrimination.
Et pour parler de la complexité confessionnelle en Syrie, nous recevons en studio Joseph Maïla. Bonjour.
Bonjour Véronique Guémard.
Vous êtes franco-libanais, professeur de relations internationales à l'ESSEC, ancien recteur de l'Université catholique de Paris. Vous êtes aussi ancien directeur de la prospective du Quai d'Orsay. Vous avez créé d'ailleurs à la demande du ministre le pôle religion. Nous allons parler donc de la situation actuelle, mais tout d'abord peut-être faisons un tour dans l'histoire de la Syrie pour comprendre la présence de cette multitude de groupes confessionnel dans la région, situé vraiment à un carrefour, donc entre Méditerranée, Mésopotamie. On peut parler donc de mosaïque confessionnelle, Joseph Maïla ?
On peut absolument parler de mosaïque confessionnelle, et comme vous l'avez dit, c'est véritablement la configuration, la localisation géographique qui permet ce mélange des cultures, des religions. Le christianisme n'est pas loin, puisque c'est dans cette région qu'il a pris naissance. On se souvient du voyage de Saint Paul à Damas, par exemple, puisque nous parlons de la Syrie. La présence juive était une présence importante. Malheureusement, elle a disparu aujourd'hui. Et bien entendu, les multiples dénominations chrétiennes, dont on va parler certainement, et l'arrivée, bien entendu, de l'islam à partir du 7e siècle, qui va faire la conquête de la Syrie, et les Omayyades, qui sont le premier empire, si vous voulez, musulman, après la mort du prophète, va prendre comme capitale Damas, donc la Syrie. Et au cours de l'histoire, la région est à la croisée des chemins, donc vous allez avoir un multiple apport de populations et donc de religions diverses.
En même temps, Joseph Maïla, là, vous dites qu'il ne faut pas parler de minorité en Syrie, que c'est symptomatique et dangereux. Pour quelle raison ?
Alors, je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, on a senti qu'au lieu d'aller vers une révolution citoyenne, qui est un peu dans la foulée de ce que vient de nous laisser entendre votre reportage, il y avait, au moment de la révolution, entre guillemets, de 2011, ce printemps arabe syrien, une volonté de faire unité. Et donc, on parle de citoyenneté. Dès qu'on entre dans la logique des minorités et des majorités, forcément, il y a de la marginalisation, de l'exclusion. Alors, que le sentiment unanime de la société civile, mais on verra que le président El-Shara n'est pas tout à fait sur cette longueur d'onde, vous avez des possibilités d'introduire des nuances en disant par exemple que l'islam est religion d'État ou que le président de la République doit être forcément musulman sunnite. Et donc à partir de là, à quoi ça sert de parler de citoyenneté si on fait des distinctions au niveau de la répartition des postes au sein de l'État en fonction de l'appartenance communautaire?
Alors, en Syrie, on parle d'un pays d'environ 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, enfin, c'est difficile de donner des chiffres, hein, avec la guerre, le nombre de réfugiés, de déplacés. Une grande majorité donc de musulmans, sunnites, chiites, alaouites, druzes. Les sunnites donc sont majoritaires, à environ 74 à 80% de la population. C'est pas un bloc monolithique avec différentes composantes en fait. Joseph Maïla.
Absolument. Plusieurs composantes. Vous avez raison d'insister sur le bloc sunnite, parce que véritablement, la Syrie, au cours de l'histoire, a été un centre vivant de tout ce qui est arabisme, tout ce qui est sunnite. Et le bloc sunnite est majoritaire dans la mesure où vous incluez des sunnites non arabes, par exemple les Kurdes. Les Kurdes sont à majorité sunnite. En tout cas, en Syrie, ils le sont majoritairement.
À plus de 80%.
82%, exactement. Donc avec ça, effectivement, les sunnites arabes et les sunnites non arabes, c'est-à-dire les Kurdes, forment la grande majorité, l'immense majorité, si l'on peut dire, de ce pays. Mais la Syrie a été connue dans l'histoire comme un pays de diversité. Et pendant toute la période du mandat français, vous savez que c'est la France qui s'est installée dans cette région et qui a conduit au nom de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui a mené à bien ce mandat de 1920 à 1943, 44, 45, les troupes françaises partent de Syrie. Il y a eu cette tentation de rendre compte de cette diversité. La France avait créé en 1936 l'État des Alaouites, l'État des Druzes et deux États, Damas et Alep, qui étaient l'État des États sunnites, et avant véritablement de renoncer à ce projet. Mais si ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, on a pu penser qu'à partir de la diversité communautaire, on pouvait créer des États communautaires. Mais aujourd'hui, ce sentiment est tout à fait dépassé parce que le sentiment unitaire a été insufflé d'abord par un nationalisme syrien très fort, ensuite l'arrivée au pouvoir du Baas, qui lui est un parti du parti Baas, qui était le parti du président Assad, qui a été fondé par un chrétien syrien, Michel Aflaq, et qui lui mettait en avant la laïcité, le dépassement des allégeances communautaires. On a pensé que la Syrie allait dépasser ce stade des luttes intercommunautaires. Malheureusement, vous le signaliez au départ, avec ces tueries qui ont eu lieu dans le pays alaouite, on voit que les dissensions, les sentiments, les clivages communautaires sont encore extrêmement vifs.
Mais il y a des courants aussi rigoristes de l'islam, hein, des mouvements d'Al-Qaïda, hein, dont est issu d'ailleurs le dirigeant actuel Ahmed Al-Shara, même s'il présente aujourd'hui cette image d'ouverture. On se souvient aussi des exactions commises par le groupe État islamique dans les années 2014 à 2019. Donc il y a aussi des poches encore, des groupes, des tendances qui sont dans cet islam très rigoriste encore aujourd'hui en Syrie.
Très radical. Vous avez raison, Véronique Guémard, d'insister là-dessus. Mais là, on passe à autre chose. On passe à cette instrumentalisation du politique, à une doctrine, à des tendances religieuses. Alors, il y a des gens qui sont plutôt salafistes, qui sont plutôt dans le rigorisme religieux, mais qui sont à distance du politique. Il y a des soufis qui sont les mystiques de l'islam. Et il y a cette tendance, malheureusement, depuis 2011, cette exacerbation des tensions communautaire, la montée de Jabhat al-Nosra, ensuite Daesh et l'État islamique, dont est issu Ahmed al-Shara, qui à Idlib, on l'oublie souvent parce qu'il avait été relégué du fait de la guerre dans cette région, qu'il a administré de manière religieuse, c'est-à-dire en appliquant la charia, avec des peines qui sont des peines prévues par le Coran et donc inspirées par la religion, une législation de type religieux, y compris au civil, quand on dit législation, bien entendu, et donc Ahmed al-Shara qui arrive au pouvoir et qui a une équipe ministérielle de 23 membres, tous issus de ces bataillons de combattants djihadistes, puisque c'est, il faut les appeler par leur nom, mais qui portent cravate aujourd'hui, hein, et qui soignent leur barbe et qui portent cravate, sans doute pour faire passer un discours de, à la communauté internationale qui soit beaucoup plus acceptable, au moins sur le plan formel. Mais il reste effectivement ce point d'interrogation extrêmement important. Que faire du passé radical? Est-ce que le passé risque de revenir?
Alors, il y a eu quand même une conférence nationale en début d'année 2025, une conférence nationale qui n'a pas finalement réuni tous les membres de la société syrienne, à l'instar des Kurdes qui étaient absents, même si un compromis a été trouvé après le 10 mars dernier. Les Kurdes, qui rappelons-le, sont 80% musulmans sunnites, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Joseph Maïla. Ils ont lutté contre les djihadistes, hein, de l'organisation inter-islamique pendant cette guerre. Sanaa Kurdi a 32 ans et elle continue, elle, de militer pour le droit des Kurdes.
Aujourd'hui, le slogan de la République syrienne est « La République arabe syrienne ». Et son slogan connu est « Une mère arabe unie ». Cela nie mon existence en tant que personne non arabe. Je suis une personne qui parle et aime la langue arabe, mais j'ai une autre langue, le kurde. Ce sentiment de non-appartenance m'accompagne tous les jours. Il est très difficile de répondre quand quelqu'un me demande d'où je viens. Je dis « je suis kurde syrienne », car la Syrie ne m'a jamais reconnue et ne reconnaît pas mon existence en tant que kurde.
Joseph Maïla, donc on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très difficile, hein, de rassembler effectivement toutes ces tendances. Oui, et notamment sur la question kurde, qui est très particulière aussi.
C'est-à-dire que la diversité n'est pas seulement communautaire, elle peut être ethnique. Et dans le cas des Kurdes, ils ont une langue, ils ont une culture qui est propre. Alors, ce n'est pas le cas de la Syrie exclusivement, puisque le peuple kurde, environ 38 à 40 millions d'habitants, est réparti entre quatre États de la région.
Et on pourrait faire une émission sur les Kurdes, effectivement.
Absolument. C'est le seul peuple aujourd'hui, avec les Palestiniens, qui revendiquent un État et qui n'ont pas d'État, mais enfin qui est porté par un combat nationaliste. Mais la nouveauté dans l'actualité kurde, si l'on peut dire, c'est que l'État d'Irak est passé à la fédération et qu'il y a aujourd'hui un État fédéré kurde dans l'ensemble irakien. Les Kurdes de Syrie, en tout cas le discours de la personne que vous avez interviewée, est en train de refléter un peu cela, en disant « on ne tient pas compte de nos diversités, nous aurions voulu un État fédéral ». Et là, la réponse de la déclaration constitutionnelle du 10 mars, c'est de dire « la Syrie est un État unitaire uni ». Et on sait que le Baas syrien a combattu ces tendances séparatistes et que al-Sharaa reprend un peu ce discours en disant « il n'y a pas de place pour la diversité ». Mais les droits culturels, où sont-ils? Le fait de pouvoir parler sa langue, où est-il? Bon, il y aura certainement des accommodements pour dire que la langue kurde a une place un peu spéciale, mais on ne le voit pas venir.
Si certains espèrent une constitution basée sur un État laïque, d'autres souhaitent clairement que soit inscrite la primauté de l'islam, on en parlait tout à l'heure, Joseph Maïla, à l'instar d'imams proches de Hayat al-Sham, comme le cheikh Khaled, que notre correspondante Manon Chaplin a pu rencontrer en janvier dernier.
Si un parti islamique dirige le pays, cela permettra de rendre justice à tout le monde. C'est un principe de notre religion. Même les Alaouites pourront faire valoir leurs droits et vivre mieux que sous le régime d'Al-Assad. Al-Assad était contre la religion et nous avons vu ce que ça a donné. Des bombardements, du sang et des viols dans toute la Syrie.
Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmad al-Sharaa envoie des messages rassurants, répète son envie d'une Syrie unie, la perspective d'un islam sunnite dominant dans ce pays où 30% de la population est issue de minorités fait débat.
Il ne faut pas s'inquiéter. À Idlib et depuis de nombreuses années, sous le régime d'Ayat Tahir al-Sham, les Druzes et les chrétiens sont proches de nous. Personne ne leur a adressé un seul mot de travers. Ce sont des preuves concrètes et pas seulement des paroles. Et nous, nous ne faisons pas confiance aux paroles, nous faisons confiance aux actes.
Joseph Maïla, ce qui inquiète les autres confessions religieuses et les représentants de la société civile, hein, c'est notamment cette possible imposition de la loi islamique, la charia, sur la vie des gens par le nouveau pouvoir en place.
Oui, absolument. On peut apporter des tas de nuances à ce que vient de dire la personne que vous avez interviewée, qui est un religieux, tendance sunnite. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'on s'oriente vers un État laïque ou une constitution laïque ? La réponse est non. On a un projet constitutionnel, c'est une déclaration, et vous savez qu'elle prévoit qu'il va y avoir une période de transition pendant 5 ans dans laquelle on pourra élaborer la constitution définitive. Il y a un comité d'experts qui comporte notamment une militante chrétienne extrêmement connue, donc qui est là pour apporter un peu l'image de la diversité, ou en tout cas la voix de la diversité. Mais si nous prenons cette déclaration, il y a quand même une contradiction. D'une part, vous avez tous les principes qui seraient acceptables et qui sont acceptés par une déclaration démocratique, égalité des citoyens devant la loi, pas de discrimination concernant la religion, le pluralisme religieux est érigé en véritable conviction constitutionnelle, et en face, vous avez la charia et la source principale de la Constitution. Alors, dans la Constitution antérieure, celle de Bachar el-Assad, qui date de 2012, il y avait la charia est une source. Là, c'est la source principale. Deuxièmement, on reprend quelque chose qui était dans la Constitution de 2012. Le président de la République doit être obligatoirement un musulman. Voilà. Et donc, on peut se poser la question de savoir comment on va concilier des principes démocratiques avec une espèce de coloration, de tonalité religieuse qui est donnée aux institutions.
Joseph Maïla, je voudrais vous faire écouter aussi des réactions différentes de personnes jointes par notre correspondant Mohamed Erami. Les Alaouites, dont est issu Bachar el-Assad, ont été particulièrement ciblés ces dernières semaines par des combattants de la nouvelle administration en représailles d'attaques perpétrées par des groupes loyalistes à l'ancien régime, comme en témoigne cette femme à Jablé, dans la province de Latakia.
Les civils, les enfants et les habitants des villages côtiers ne peuvent pas continuer à vivre dans cette peur dans ces régions. Avec nos proches, nous en discutons et nous cherchons des moyens de fuir nos maisons à cause de la peur et de la terreur qu'ils vivent quotidiennement. Et la réalité, même dans les villes, comme c'est le cas à Tartous où je vis actuellement, c'est que la peur est énorme dans le cœur de la plupart des habitants.
Après des affrontements violents pendant plusieurs jours, dans les zones du littoral à majorité alaouite, suivies d'exécutions sommaires et de meurtres aléatoires, les minorités en Syrie ont commencé à se poser des questions. La jeune chiite, Sausen Saad, commence à craindre de subir le même sort.
Franchement, qu'est-ce qui me ferait rester dans mon pays, la Syrie, ou dans ma maison, alors que je ne ressens ni sécurité ni stabilité? Je ne peux pas envisager de rester ici. C'est une situation difficile de passer ma journée en ayant peur que des hommes armés entrent chez moi à tout moment et me tuent sans raison. Est-il concevable que je sois tué simplement parce que je suis une personne qui veut vivre librement et en sécurité, chez moi, et travailler, me déplacer et faire mes courses? La vérité, c'est que moi et la majorité du peuple syrien, nous ne rêvons que de sécurité.
Avant le début de la guerre en Syrie en 2011, il y avait 2,2 millions de chrétiens, soit environ 10% de la population. Aujourd'hui, leur nombre a chuté à moins de 600 000. C'est pourquoi le trentenaire Georges Abiche, avec sa famille et ses proches, attend de voir comment la nouvelle administration, qui suit une ligne idéologique plus radicale, va les traiter afin de prendre une décision sur le fait de rester ou de partir.
Il y a beaucoup de problèmes et d'incidents ces derniers temps contre les chrétiens dans la région de Soukaïlabia, Djaramana, Damas, Homs et Hama, et qui ont visé les communautés chrétiennes avec des attaques contre les symboles religieux, les églises et les cimetières, en plus des tentatives d'imposer des vêtements islamiques ou de forcer les chrétiennes à porter le voile.
Joseph Maïla, une réaction à ce reportage ?
Oui, oui, absolument. C'est ce qui s'est passé il y a maintenant une dizaine de jours sur la chaîne côtière et dans les villages de la chaîne côtière, ce qu'on appelle les pays de Alaouites, qui vont de l'attaquer sur la mer jusqu'à Tartous, Banias, etc., est absolument effrayant. Plus de 1500 personnes ont été tuées, comme ça, simplement parce que des membres de la formation du président Achara, donc HTS ou HTC, ça dépend si vous mettez Cham avec un S ou avec un C, sont entrés et ont tiré dans tous les sens, en égorgeant des enfants devant leurs parents, des vieillards, simplement pour se venger parce que, effectivement, comme vous l'avez signalé, des membres nostalgiques du gouvernement du président déchu se sont livrés à des attaques contre les membres des nouvelles forces armées syriennes et ont causé quelque chose comme 300 à 400 victimes. Donc la vengeance a été immédiate.
On va revenir sur les Alaouites, effectivement, et les chrétiens également se posent des questions. Donc il y a des craintes aussi.
Absolument.
On vient d'entendre les inquiétudes de certains chrétiens. Donc.
Oui, parce que la région dans laquelle sont passées ces tueries est une région mixte, à dominante Alaouite, mais avec des chrétiens et aussi avec des sunnites. Mais effectivement, ça s'inscrit véritablement en contradiction avec tout le discours tenu par HTS jusqu'à maintenant.
Alors, concernant les chrétiens, le pape François avait en janvier dernier lancé un appel pour une transition politique pacifique en Syrie et le respect des libertés religieuses pour le bien de cette nation affligée par tant d'années de guerre, avait-il ajouté. Les chrétiens, là encore, qui ne sont pas un bloc monolithique, on va y revenir justement, dont la présence dans la région, vous avez commencé à l'évoquer au début de l'émission, Joseph Maïla, la présence dans la région remonte aux origines du christianisme, on va dire, il y a 2000 ans.
Absolument, absolument.
Et... avec là aussi une mosaïque à l'intérieur même du christianisme.
Oui, les dénominations chrétiennes qui remontent au 4e, 5e siècle, puisque au concile de Nicée en 325, puis en Chalcédoine 451, a été fixée la doctrine qu'on appelle christologique sur la nature de Christ. Et là, les populations, les églises de l'époque se sont divisées. Et ce sont ces divisions qui continuent à partir de l'autre grande division, qui est 1054, qui est la division entre orthodoxe et catholique. Donc là, véritablement, on se trouve dans ce pays de mosaïque. Et c'est une constante de la papauté, que ce soit Jean-Paul II, Benoît XVI ou le pape actuel, que de rappeler cette défense des libertés religieuses.
Alors, on parle donc d'une multitude. Vous parliez de cette mosaïque, effectivement, au sein du christianisme. Donc, on parle des Syriaques, les Melkites.
Alors, on parle de plusieurs dénominations.
Les Arméniens.
Absolument. Là, si on entre dans le détail, on va passer notre matinée à détailler. Mais disons que la grande communauté, c'est la communauté orthodoxe, ce qu'on appelle les Grecs orthodoxes, avec un patriarche qui est le patriarche Ioan X Iasigi, et qui a fait un discours absolument remarqué le 1er janvier 2025 en disant « Nous, nous sommes là depuis très longtemps », en laissant entendre que nous sommes là avant l'arrivée de l'islam. Et nous avons une fois reçu des apôtres, donc c'était bien pour marquer l'antécédence dans le temps, remonter très loin, et nous sommes attachés à cette terre. Ça, c'est les Grecs orthodoxes qui doivent être 150 000 à 200 000 aujourd'hui, en face desquels vous avez les Grecs catholiques, ce qu'on appelle les Melkites, qui se sont séparés des Grecs orthodoxes en 1724 pour continuer cette culture orthodoxe, cette culture gréco-chrétienne, mais en se rattachant à la papauté. Et puis, vous avez les Syriaques, ce qu'on appelle les Jacobites, qui peuvent être orthodoxes et catholiques, et vous avez les Arméniens, qui peuvent être apostoliques ou catholiques. Vous avez les Maronites, environ 60 000, qui sont dans la région d'Alaouite et à Damas. Il y a des protestants, bien sûr.
Donc une grande diversité.
Absolument.
Et alors, beaucoup de chrétiens donc, ont fui la guerre, on l'a dit, ils sont peu nombreux aujourd'hui en Syrie, à peine 2% de la population, alors qu'ils étaient plus de 10% avant la guerre. Certains expriment effectivement leurs craintes, on l'a entendu, mais d'autres gardent tout de même de l'espoir, comme cette religieuse d'une congrégation catholique en banlieue de Damas que notre envoyé spécial Muriel Paradon avait pu rencontrer en décembre dernier.
Puisqu'il y a maintenant des pourparlers avec les hommes de religion, la première chose qu'on a cherché à assurer, que la liberté du culte, oui. Et c'est une période transitoire, il y a plein de promesses, donc on est maintenant en train de reprendre l'assurance, il faut leur donner la chance.
Il faut leur donner la chance.
Oui.
C'est optimiste ?
Écoutez, il faut garder espoir, mais l'optimisme n'est pas forcément au rendez-vous. C'est-à-dire que, comme vous l'aviez signalé, les chrétiens sont partis. Il y avait à Alep en 2010 200 000 chrétiens. Aujourd'hui, ils sont moins de 30 000. Il y avait à Homs quelque chose comme 50 000 chrétiens dans les environs aussi. Maintenant, il y en a à Homs même, il y a 20 000. Donc, les chrétiens sont partis. Il y a des régions où ils ont totalement disparu. Dans les régions kurdes du nord-est syrien, il y a 500 familles qui ont disparu de Deir ez-Zor et qui sont établies aujourd'hui en Australie. Donc, il faut garder l'espoir. Il faut donner de la confiance. Quand on dit que les chrétiens sont partis, les musulmans sont partis aussi. Les druzes sont partis aussi, les alaouites. Mais effectivement, l'impact des départs se fait beaucoup plus sentir et voir quand vous avez affaire à une petite communauté.
On va s'arrêter quelques minutes sur les alaouites. On commençait à en parler, hein. Bachar al-Assad et son père, Hafez al-Assad, étaient tous deux alaouites, mais d'un certain clan qui a régné donc sans partage pendant plus de 50 ans en Syrie. Je vous propose de revenir sur les fondements de cette doctrine alaouite. Les partisans d'Ali, à partir du 9e, 10e siècle, issus du chiisme selon lequel le prophète Mohammed a nommé son gendre Ali pour lui succéder. Alors, Ariad Ghanem est franco-syrien. Il est docteur en relations internationales à Sciences Po, spécialiste des alaouites. Il explique les spécificités de cette doctrine alaouite.
Il y a Al-Nusayr, qui est donc le fondateur de la doctrine alaouite, qui dit... Le 12e imam a disparu en réalité pour préparer le retour de Ali, qui est notre chef, notre guide. Et les alaouites vont à partir de ce moment-là commencer à conférer une nature presque divine à Ali. Et j'insiste sur le presque, parce que comme le dit la doctrine alaouite, dire que Ali est Dieu, c'est un blasphème. Mais dire que Ali n'est pas Dieu, c'est un blasphème également. Nusayr va effectivement fonder la doctrine. Derrière lui, plusieurs personnes vont émerger au 10e, 11e pour la consolider, notamment Al-Khasibi. Al-Khasibi dont le sanctuaire a été brûlé il y a quelques semaines. Et donc on comprend l'importance de cet événement pour les alaouites, puisque c'est l'une de leurs principales figures. Celui qui a écrit la constitution, le dustur des alaouites, Al-Tabarani également à cette période, et c'est au cours des 10e, 11e siècles que depuis le cœur du Moyen-Orient actuel, les alaouites, les individus vont se déplacer vers la côte pour des raisons notamment politiques, 11e, 12e même, et qu'ils vont s'installer dans cette montagne alaouite dont la géographie est très complexe, et cette géographie va expliquer les divisions, les scissions au sein des groupes alaouites en clans et en fédération clanique qui existe encore à ce jour.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, effectivement, les clans subsistent. Et pourtant, à travers l'histoire, il y a eu des persécutions, et notamment par les sunnites.
Il y a eu effectivement des épisodes de marginalisation. Je pense par exemple au fatwa d'Ibn Taymiyyah, un savant théologien islamique qui a produit ses fatwas au XIVe siècle, disant en substance que les alaouites étaient les pires des apostats, des mécréants, parce qu'ils avaient des croyances occultes, parce qu'ils déifiaient d'une certaine façon Ali, ce qui est un blasphème évidemment absolu en islam. Donc il y a eu ce type de rejet. L'historiographie alaouite parle de beaucoup aussi de marginalisation pendant l'Empire ottoman. Ce qu'on sait aussi, c'est que vers la fin de l'Empire ottoman, il y a eu aussi des formes d'assimilation et d'intégration des alaouites, cette fois-ci comme musulmans. Donc au titre de leur appartenance à l'islam, les alaouites ont été appelés à participer aux efforts de guerre, à l'armée, aux taxes, comme tous les sujets ottomans, ce qui a généré d'ailleurs d'importantes frictions parce que certains leaders traditionnels alaouites ne souhaitaient pas être absorbés ainsi par le centre politique ottoman. Et puis il y a, à l'échelle des alaouites, une forme de syncrétisme et des pratiques qui relèvent vraiment aussi de l'intégration, de l'assimilation.
Par exemple, on fête Noël, on fête aussi certaines fêtes du zoroastrisme.
Il y a le syncrétisme alaouite qui, pour des raisons historiques, géographiques, le contexte de la côte syrienne, il y a des mélanges, des transferts de croyances entre des croyances pré-islamiques, babyloniennes, l'importance de la lune, des croyances et des pratiques chrétiennes, l'importance d'une trinité, certaines fêtes comme Noël, qui sont parmi les principales fêtes alaouites, des croyances grecques antiques, platoniciennes, philosophiques aussi. Donc ça, c'est une chose. Et de l'autre, il y a cette forme de pratique, donc de mécanisme de survie parce qu'on est dans des contextes qui sont à majorité sunnite. Et donc il y a cette idée que les Alaouites doivent toujours être capables aussi de s'intégrer dans le reste, tout en gardant à part, dans le privé, leurs spécificités, leurs croyances particulières. Est-ce qu'on doit aller prier? Est-ce qu'on doit faire le jeûne? Ça fait débat. Et ces controverses, ces clivages, s'alignent plus ou moins aussi avec un autre débat qui est à quel point est-ce qu'on doit se mettre à la suite du chiisme, du haut-décimain, ou alors au contraire, préserver une forme d'autonomie morale, religieuse, doctrinale. Beaucoup d'Alaouites ont cessé de pratiquer ces rites, ça fait une, deux, trois générations parfois. Il y a eu un éloignement de cette doctrine qui fait qu'aujourd'hui la société alaouite est très complexe, entre certains qui sont croyants, d'autres qui ne le sont plus. Il y a tout ce monde, cette société complexe alaouite.
Une société complexe, Joseph Maïla.
Oui, une société complexe là aussi, et c'est très bien expliqué, notamment votre interlocuteur fixe bien la doctrine, donc d'Ibn Nosair au 9e, 10e siècle, bien que le terme aujourd'hui de Nosairite ne s'applique plus, parce qu'il est considéré comme un petit peu discriminatoire, mais on dit effectivement les Alaouites, avec cette spécificité qui est mentionnée. Alors, religion syncrétique, qui se distingue très nettement par ses caractéristiques de ce que nous savons de l'islam duodécimain, septimanien ou simplement de l'islam sunnite. Donc on appelle ça effectivement des doctrines hétérodoxes, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que qui définit l'orthodoxie ? On est hétérodoxe par rapport à un orthodoxe, c'est-à-dire celui qui est sur la voie droite, hein, le terme grec orthodoxa, l'opinion juste. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme, mais on va parler de diversité, de pluralisme religieux.
Et Ariad Hanem, justement, parle encore une fois des Alaouites qui ont été régulièrement marginalisés et discriminés jusqu'à la moitié du XXe siècle.
Il y avait eu, dès la fin des années 40, en fait, des politiques d'ingénierie sociale soutenu notamment par le parti Baas naissant, qui, pour certains de ses leaders, voyait sur la côte syrienne les communautés alaouites extrêmement marginalisées et ont donc essayé de favoriser leur intégration à la société par l'armée principalement, mais aussi par des études supérieures pour devenir enseignants. Donc il y a eu effectivement, à partir des années 40, 50, 60, un exode rural des alaouites, au gré aussi des réformes agraires. Beaucoup d'alaouites ont accédé à une petite propriété terrienne qui a favorisé une forme d'ascension sociale. Ça n'a pas du tout touché tous les Alaouites de façon égalitaire. Il y a une précarité qui est restée très importante dans les villages, mais certaines familles se sont urbanisées et se sont intégrées de cette façon à la société. À partir de là, on est dans les années 60, et là, on commence à observer des luttes de factions, mais pas uniquement alaouites, des factions alaouites, druzes, sunnites, dans l'armée. Et dans ces luttes factionnelles, certaines factions vont gagner sur les autres, et on va avoir notamment des luttes entre factions alaouites elles-mêmes, ce qui montre qu'il n'y a pas une grande faction alaouite, mais il y avait des divisions entre ceux qui soutenaient Salah Hajdid, le grand général des années 60, et Hafez al-Assad. Hafez al-Assad va finalement gagner cette lutte et accéder au pouvoir de cette façon dans les années 70, favorisant largement certains clans alaouites, marginalisant assez largement d'autres dans cette logique de préservation du pouvoir. Les Assad ont toujours tout fait pour défaire et empêcher toute autonomie morale, religieuse des Alaouites qui n'ont pas forcément fait l'objet d'un positionnement favorable de ce point de vue.
Joseph Maïla, des réactions, parce qu'effectivement ces clans, c'est un petit peu le cœur du sujet là, sur les Alaouites.
Absolument. Donc on passe, si vous voulez, du plan de l'explication religieuse au plan de la réalité sociale.
Voilà.
Et en sociologie, les Alaouites appartiennent à une société tribale, clanique, qui est divisée en quatre grandes fédérations et qui se sont disputées le pouvoir au plan matériel. Tout change à partir de 1970. En 1970, le clan du père Assad, Hafez al-Assad, l'emporte sur Salah Chedid, qui était un autre clan, mais il y avait aussi des Maros, des Ayen qui faisaient partie de cette lutte du pouvoir. Mais d'où tout cela vient ? Il vient de ce que a dit votre correspondant là tout à l'heure, qu'à partir des années 45-50, la communauté alaouite est une communauté pauvre, même très pauvre, et elle est même déconsidérée. C'est de là d'où vient la main-d'œuvre facile, la domesticité urbaine. On va aller la chercher dans ces régions pauvres.
Donc il y a une certaine forme de revanche.
Oui, voilà. En 1970, Hafez al-Assad arrive au pouvoir Et effectivement, on va avoir une montée en puissance par le biais, c'est l'ascenseur social formidable qu'est l'armée, par le biais de l'armée, il va y avoir une accession au pouvoir, une accession à la richesse. Et il faut ajouter une chose aussi, c'est que, notamment pour la famille Assad, le fils Assad, Bachar al-Assad, est marié à une sunnite. Et donc, il va y avoir une sainte alliance entre la militarisation alaouite, c'est-à-dire ceux qui tiennent le pouvoir par le biais de l'armée sont des alaouites, mais alliés à des clans sunnites qui, eux, possèdent la richesse. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, retour du bâton, retour de la manivelle, si je peux m'exprimer ainsi, j'ai désir de revanche.
Mais il y a eu un facteur confessionnel par le clan Assad aussi, qui disait, effectivement, chrétien alaouite, je vous protège, et sans moi, ce sera le chaos et votre...
Alors,
perte.
Là, on passe à autre chose. C'est-à-dire que le président Assad s'adressait aux minorités en disant « Mais vous voyez ce qui se passe dans la région, les sunnites sont un peu partout, il y a des tendances extrémistes qui sont en train de monter, et donc moi je vais vous protéger. » Donc protéger les chrétiens, protéger les druzes, protéger les ismaéliens, qui sont des chiites septimaniens, qui croient à sept imams et non pas à 12, les chiites du haut des Simains, les deux représentant 1% à 2% de la population, à eux deux, 2% de la population, et il va y avoir une espèce de logique de la protection. Vous acceptez mon pouvoir, et en retour, je vous protège et je vous garantis l'accès au travail, à la protection, etc. Mais vous resterez marginalisés politiquement et socialement.
Alors, depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, Ariane Hanem observe ces violences qui se sont accentuées, hein, qui ont ciblé les populations alaouites des montagnes et de la côte syrienne, faisant plus de 1300 morts, on l'a dit, comme on l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages. Lui-même a perdu aussi des proches qui ont été tués.
Il y a une forme de continuum de violence, en fait, qu'on observe depuis le 8 décembre, allant de violences de basse intensité, l'expropriation, le vol de maison, jusqu'aux enlèvements, assassinats plus ou moins ciblés qu'on a observés dans la région de Homs depuis plusieurs semaines, jusqu'à ces dernières semaines, des logiques beaucoup plus massives de massacres, des centaines de civils tués. Donc il y a aujourd'hui ce sentiment d'exclusion qui est très fort et qui est d'autant plus dommageable que moi j'avais observé en décembre dernier une disponibilité de la grande majorité des Alaouites à participer à un mouvement de transition. Ça date de toutes ces dernières années, en fait, où les Alaouites ont constaté à quel point on avait envoyé leurs jeunes à la guerre, des dizaines de milliers de morts, pour rien, pas du tout pour défendre leurs intérêts à eux, mais en fait pour défendre les intérêts d'une clique qui, elle, a continué ses logiques prédatrices, ses logiques de trafic, ses logiques mafieuses.
Donc le clan Assad ?
Le clan Assad, tout à fait. Les Alaouites ne voulaient plus des Assad. Et donc, quand les premières factions de HTC sont arrivées sur la côte, l'immense majorité des villages étaient dans un souhait de collaborer, y compris contre les résidus du régime qui auraient voulu se cacher parmi eux. Mais après 3 mois de ce continuum de violence, malheureusement, les indicateurs ne sont pas positifs pour les Alaouites et pour d'autres minorités d'ailleurs. Et il y a vraiment un gros travail à faire pour favoriser une conciliation, une inclusion et une transition beaucoup plus inclusive qu'elle l'a été jusqu'à maintenant.
Joseph Maïla, Riad Hanem utilise les mots d'inclusion, de conciliation nécessaire donc pour refaire société, une unité nationale, une Syrie libre.
Absolument, c'est indispensable. Ceci dit, effectivement, sur cette violence dont parle votre interlocuteur, et notamment dans la région de Jablé, dans la région de Homs, il y a eu un phénomène de prédation, de vol qui a été absolument extraordinaire. Ceci dit, deux faits sont avérés. Le premier, c'est que la communauté alaouite a manifesté un certain rejet de ces anciens chefs qui venaient se réfugier dans la région, au point qu'aucun d'entre eux n'ait finalement trouvé refuge chez lui, auprès des siens, et qu'ils ont été obligés de partir, soit par le biais de l'Irak, soit en allant vers le Liban et de là, pour certains, vers la Russie. Ils ont été obligés de fuir. Donc, il y a une espèce de rejet de ces anciennes autorités qui étaient supposées protéger la Alaouite et qui ne l'ont pas fait. Mais il y a un deuxième point qui est important, c'est que ceux qui se sont livrés à ces exactions sont d'origine étrangère. Ce sont des Caucasiens du Sud, sud, des Tchétchènes qui étaient à Idlib. Et la réaction, finalement, c'est une erreur du président al-Shara. Ça a été par phénomène de peur, panique, de voir son pouvoir contesté et peut-être renversé. C'est de donner libre cours à ces espèces de militaires d'occasion, de djihadistes, totalement étrangers à la réalité et qui, sans aucune pitié, sans aucune compréhension, sans aucune commisération, se sont livrés à des actes terribles. Mais il est évident que nous entrons, et c'est prévu dans la déclaration constitutionnelle, dans une logique de transition. Et le discours constitutionnel, puisque al-Shara l'a commenté, parle de justice transitionnelle, un peu sur le mode de l'Afrique du Sud. Hein, tout le monde pense à cela. Et là, conciliation, réconciliation sont des piliers de la société réconciliée de demain. Question, est-ce qu'on y arrivera? Surtout avec cette accumulation de la méfiance.
Joseph Maïla, alors je voudrais vous faire écouter maintenant l'interview réalisée avec Vincent Gellot, responsable des programmes de l'œuvre d'Orient en Syrie, au Liban, en Jordanie, qui vient de publier une BD intitulée « Syrie, des pierres et de la vie », avec des dessins d'Edmond Baudouin qu'il a emmené en Syrie au printemps 2023, de Damas à Homs, Alep et Deir ez-Zor.
Edmond, c'est un monsieur qui a plus de 80 ans, donc il y a plusieurs décennies qui nous séparent. C'est un monsieur qui n'est pas croyant, mais nous avons quand même en commun d'avoir cette passion de l'humanité. Je lui ai demandé de m'accompagner en Syrie sur ce chemin pour vraiment donner un visage et une voix aux Syriens et qu'ils puissent nous dire quelle était leur vie, leurs aspirations, leurs rêves. Nous leur avons posé cette question.
Et justement, qu'est-ce qui ressort?
Ce qui était marquant, c'est que les gens nous disaient « nous n'avons pas de rêve, nous ne rêvons plus, nous sommes brisés, cassés ».
Il faut préciser que ce livre et ce parcours, vous l'avez fait avant la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier.
Et justement, ce livre à rebours donne un éclairage, je crois, particulier et une clé de compréhension sur ce qui s'est passé dernièrement. Notamment, nous interrogions des soldats de l'armée du régime. Et tous ces jeunes hommes qui étaient en fait des soldats en guenilles d'une armée fantôme, qui nous disaient « moi je suis soldat depuis 8 ans, 9 ans, je suis détruit et mort de l'intérieur », c'est ce qu'ils nous disaient.
Le service militaire pouvait durer des années et des années hein, dans l'armée de Bachar al-Assad.
Exactement, c'était quasiment un service sans fin en fait. C'était une armée corvéable à merci qui avait aussi été une déchère à canon avec la population civile de cette guerre. Donc cela nous a fait aussi comprendre pourquoi le régime s'est effondré tout seul, c'est qu'il n'y avait plus personne n'y croyait. Et même leurs propres soldats. Ce voyage s'est fait en effet dans ces conditions et son titre c'est « Des pierres et de la vie ». On a voulu montrer à la fois ces pierres qui sont les pierres et les vestiges antiques de ce pays parce que la Syrie est un vieux pays. C'est les ruines de Palmyre, le krach des chevaliers, les premières églises d'Orient. Et c'est aussi les pierres récentes, les destructions récentes de cette guerre. Et puis la vie, parce que ce livre met en lumière aussi toutes ces personnes absolument admirables qui, dans des conditions épouvantables qui étaient celles de la guerre, du régime, de la fermeture de ce pays, avec très peu d'aide, ont trouvé le moyen de créer des associations, de soutenir au niveau humanitaire, mais aussi au niveau du dialogue interreligieux, de la réconciliation, des femmes, de faire un travail de fourmi pour faire en sorte que la population puisse survivre dans des conditions terribles.
Alors justement, sur ce dialogue interreligieux, sur la façon dont les Syriens ont pu vivre ces 15 dernières années, donc vous-même, vous avez beaucoup travaillé avec l'œuvre d'Orient, donc auprès des chrétiens, mais comment on vit avec les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, avec les autres composantes de la société?
Alors, ce qui est très marquant en Syrie et avec les communautés chrétiennes de Syrie, parce qu'elles sont nombreuses, il y a des Arméniens, des Grecs, des Syriaques, c'est la grande mosaïque des églises d'Orient, c'est qu'ils sont partout dans le pays. Et donc, ils cohabitent, ils vivent avec d'autres communautés religieuses, et notamment à travers leurs institutions. Parce que quand on parle des communautés chrétiennes, par exemple, on parle d'écoles, de dispensaires, d'hôpitaux, d'associations. Et tout cela crée des lieux de rencontre. La guerre a cassé beaucoup de choses. Elle a aussi abîmé la relation entre les communautés. Elle a créé des tensions qui existent encore aujourd'hui, qui sont réelles. Mais on croit que les chrétiens peuvent jouer un rôle de pont d'abord avec l'Occident, mais aussi de pont entre les différentes communautés religieuses, pour retisser du dialogue, créer un espace de discussion, faire en sorte de limiter les désirs de vengeance, par exemple, ou d'exaction. Et donc, ils peuvent jouer un rôle tout à fait important dans la Syrie de demain.
Merci beaucoup, Vincent Gelot.
Merci à vous.
Joseph Maïla, est-ce que vous pensez, comme Vincent Gelot, que les chrétiens peuvent effectivement créer des ponts ?
Je suis convaincu que la fonction des chrétiens, c'est de témoigner dans cette région. Et leur témoignage passe précisément par le fait de tisser des liens de solidarité, de compréhension, d'aller vers l'autre, au-delà des haines, des méfiances, des exactions. Et peut-être qu'ils sont en meilleure position de le faire du fait des divisions dans cette région entre, par exemple, chiites et sunnites. Or, les chrétiens peuvent être une force véritablement, non pas de polarisation, mais en quelque sorte de réconciliation et de juxtaposition du tissu communautaire. Ceci dit, effectivement, votre correspondant a raison de dire, mais c'est le cas du Liban, c'est le cas de l'Irak, que dans ces réalités, dans ces pays qui souffrent de la géopolitique, où les Russes jouent leur partie, les Américains, les Européens, etc., il y a des gens simples, qui rêvent de sentiments simples, de réalités simples.
Au-delà d'une instrumentalisation confessionnelle.
Bien sûr, d'un avenir simple. Avoir une vie paisible, avoir un métier, ne pas être obligé de s'expatrier. Et puis, tisser des relations d'amitié et de voisinage, puisque le voisinage est déjà là, on l'a dit suffisamment dans cette émission. La mosaïque est là, elle s'impose à vous.
Et au Liban aussi.
Et donc, le Liban est un peu dans la même situation. C'est pour ça que...
Vous-même qui voyagez
Liban,
souvent là-bas.
Oui, absolument.
Et qui êtes franco-libanais.
Voilà. Et vu du Liban, la situation en Syrie aujourd'hui fait peur, parce que c'est de nouveau l'instabilité aux frontières libanaises. De nouveau, les frontières sont ouvertes pour accueillir des réfugiés. Et en l'occurrence, on sait qu'il y a peut-être 6 à 7 000 réfugiés en provenance du pays alaouite, mais qui peuvent être aussi des chrétiens, des sunnites, des alaouites, bien sûr, qui sont en train de fuir les exactions et qui passent par cette région du nord qui s'appelle le Hakkar, ou sur la bande côtière qui passe de Tartous, par exemple, à Tripoli, qui est la grande métropole du nord Liban. Donc les situations sont imbriquées, à la fois sur le plan géographique, sur le plan humain et sur le plan religieux, mais il y a une espèce de solidarité de destin qui s'impose par-delà les frontières et les nationalités, et qui fait que vous avez des femmes et des hommes qui ont envie de vivre libres et en sécurité.
Merci beaucoup, Joseph Maïla, d'être venu jusqu'à RFI pour partager avec nos auditeurs votre éclairage et bien sûr cette mosaïque confessionnelle complexe en Syrie. Et je rappelle donc que vous êtes franco-libanais, professeur de relations internationales à l'ESSEC, et on vous retrouve certainement dans d'autres émissions et pour d'autres voyages. Vous allez voyager bientôt au Liban ?
Pas dans l'immédiat, mais je risque de partir à n'importe quel moment.
Merci beaucoup, Joseph Maïla.
Merci à vous de m'avoir reçu.
C'est la fin de cette émission réalisée par Ludivine Amado, que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Pure Radio, le site RFI, les réseaux sociaux et tout de suite le journal suivi de l'atelier des médias.